Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre curiosité. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes vendredi. Salut Thomas.
Ça va bien Sidonie?
Ça va bien.
Bienvenue à vous les curieux. On est tellement contents là, en cette nouvelle année, qu'on a essayé de se rajouter un petit jour de curiosité.
Bah oui, on pourrait se faire ça la nuit aussi. Qu'est-ce que vous,
allez,
vous avez du temps de 1h à 3h?
Bon, alors, il y a quoi au programme ce soir?
Au programme, la découverte de l'univers des sourciers, j'ai bien dit les sourciers, avec une baguette ou un pendule, ils cherchent de l'eau souterraine, des trésors enfouis et parfois même des criminels planqués. Un sourcier radiesthésiste nous racontera ses histoires extraordinaires.
Sur la musique de Manon Dessources, évidemment. Et puis on vous propose aussi un voyage dans le temps, un voyage dans le passé pour partager la vie des paysans français au siècle dernier. Vous verrez comment la mécanisation a changé leur quotidien à partir des années 50.
Et tout de suite, on vous présente les salopes de l'histoire.
La curiosité est un vilain défaut.
Appréciant la compagnie de Cléopâtre, César décida de retarder son retour pour Rome. Il est évident qu'une passion amoureuse animait ces deux êtres.
RTL.
Thérésia Thalien va entrer dans l'histoire.
Elle provoque la chute de l'incorruptible Robespierre. Il est à l'époque le maître de tout.
Jusqu'à 22h,
l'existence de Messaline se déroule dans le décor privilégié des palais impériaux. Prostituée, mariée à 14 ans, elle devient la troisième épouse du futur empereur Claude.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Cléopâtre, Madame Thalien, Messaline, la reine Margot, Joséphine de Beauharnais, Matahari, toutes des salopes et fières de l'être. C'est le portrait de ces femmes passionnantes qui ont assumé leur beauté, leur séduction, leur intelligence, leur envie de jouir, de posséder et de gouverner que nous allons dresser fièrement ce soir à la curiosité. À notre micro, Agnès Grossmann. Bonjour.
Bonjour à tous et
bonsoir
à toutes.
Vous êtes journaliste et vous adorez dresser des portraits pour la télé, mais pas que. Les salopes de l'histoire, c'est le titre de votre livre publié chez Acropole. Salopes, c'est pas facile comme mot à dire et à utiliser.
Moi, je trouve que c'est très facile
à entendre.
C'est peut-être plus facile à dire qu'à entendre. Ça claque, c'est comme un étendard, c'est rigolo.
Ça vient d'où ce mot? Ça veut dire quoi, vous savez?
Alors, en fait, au départ, ça voulait dire, ça vient salaud et salaude, qui était une façon de dire de quelqu'un qu'il était très sale, mais physiquement très sale. Et puis après, ça s'est un petit peu déporté vers la salissure morale et particulièrement vers les prostituées. Donc ça voulait dire pute, en fait.
Et votre définition à vous, pourquoi vous choisissez ce titre pour définir ces femmes?
Parce que moi, en fait, je voulais travailler sur les femmes qui ont une sexualité libre. Et quand j'en parlais à mes amis, je disais, ouais, je veux travailler sur les femmes qui ont une sexualité libre, sur celles qu'on appelle les salopes. Et souvent, quand ils me demandaient de mes nouvelles, de l'avancée de mon bouquin, ils me disaient, alors, tes salopes, comment elles se portent? Parce que c'est rigolo, c'est un terme qui fait rigoler tout le monde. Parce que la femme sexy, la femme sexuelle, quelque part, ça titille tout le monde, ça titille l'imagination, et puis ça fait rire. Et donc, j'ai gardé ce terme, puisque justement on les appelle comme ça, les femmes.
Et parce qu'elles l'ont accepté et revendiqué aussi ce mot de salope.
Elles ont assumé complètement leur sexualité. À l'époque de Cléopâtre, le mot salope n'existait pas, mais le mot pute, le mot catin existait. Mmh. Et on l'appelait la putain couronnée. Même des gens comme Plutarque, comme Tacite, lui ont donné des noms incroyables, enfin de sale pute. Bref, je vous passe les détails. Est-ce qu'elles le revendiquaient? Je ne sais pas si elle le revendiquait. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, elle ne rougissait pas sous l'insulte. Alors, elles étaient un peu hors de portée parce qu'elles étaient très haut quand même dans la société. Et elles ne se souciaient pas du qu'en dira-t-on. Et je pense que beaucoup de femmes se soucient, ont peur qu'on les traite de salopes. Alors comme ça, c'est fait.
Alors par exemple, quand Cléopâtre se présente pour la première fois à Jules César, elle arrive enroulée dans un tapis, elle est nue. Ah non, elle ne se soucie pas du qu'en dira-t-on.
Ah non, elle est très libre. Mais c'est une époque aussi où on est très libre avec son corps. Hein. C'est avant Jésus-Christ, et c'est vrai que Jésus-Christ, il a un petit peu plombé le truc.
Il n'y a pas la morale chrétienne.
Avant, le sexe, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, et on jouit de toutes ses facultés. Mais ça prouve qu'elle est brillante, parce qu'elle se fait enrouler dans un tapis, elle s'est parée avant, parce qu'elle avait un grand sens de se mettre en valeur. Elle s'est fait rouler dans un tapis pour déjouer, en fait, les hommes armés de son frère qui veut la tuer, en fait, pour pouvoir entrer dans le palais d'où elle est chassée pour rivalité, en fait, avec son frère. Et elle s'est fait enrouler dans un tapis. Et ce qui est effectivement extrêmement brillant, c'est qu'elle se déroule, qu'elle est belle et qu'elle regarde César et elle lui dit en latin « Salut à toi, César ».
Elle veut le séduire.
Ah oui, bien sûr qu'elle veut le séduire.
Et ça marche. Elle est belle, elle est cultivée, c'est une reine. Est-ce qu'elle a appris le sexe, ou est-ce que c'était un tabou dans son éducation?
Alors,
de
c'est absolument reine. Pas un tabou à l'époque, le sexe. Il y a des esclaves partout qui servent aussi à faire l'amour. On les prend souvent beaux. Enfin, en plus, c'est un pays très chaud. Les gens sont quasiment nus tout le temps. Non, non, elle a été formée par des esclaves. Elle a eu un amour qui était le fils de Pompée, mais qui est reparti par la suite. Mais elle a appris le sexe. Oui, on lui a appris tout ce qu'il fallait apprendre et elle était douée.
Mais alors, c'était pas juste une femme qui aimait le sexe. Et même si c'était que ça, ce serait formidable déjà. Mais c'est elle qui ouvre les yeux à Jules César, qui lui fait découvrir le monde et son pays, notamment la Grande Égypte.
Alors, elle était très fière de son pays. Elle se sentait reine. Et c'est vrai qu'elle était quand même vassale de Rome. Elle était la captive, en fait, de Jules César. Ce qui ajoutait peut-être, d'ailleurs, à leur tension érotique. Et c'est vrai qu'elle était très fière de son pays, que lui, elle lui organisait un voyage de 2 mois. Elle a fait la descente sur le Nil, qui aujourd'hui encore reste un voyage merveilleux à faire.
Une croisière romantique avant l'époque.
Absolument, romantique à la Cléopâtre. Et alors, à l'époque, il y avait les pyramides. Il y a toujours les pyramides. Le Sphinx, Karnak, etc. Mais évidemment, c'était dans leur grande beauté et complètement à leur apogée. Et c'était une merveille. Et c'était un peuple qui avait un sens du religieux, dans le sens relié au ciel en permanence. C'était un pays grandiose. C'était une très, très grande civilisation, l'Égypte. Et c'est vrai que Jules César a été très séduit et par Cléopâtre et par l'Égypte.
Cléopâtre qui a été ensuite décrite comme une catin par les écrivains et notamment par les historiens à Rome. Pourtant, elle a joué un rôle important dans l'ambition de César. Vous décrivez ça dans votre
Alors,
livre.
Alors, César était déjà ambitieux. Oui, il n'avait pas attendu Cléopâtre. Mais Cléopâtre était très ambitieuse aussi. Et son rêve, c'était de réunir l'Orient et l'Occident. Et d'ailleurs, elle lui fait un fils, Césarion, qu'elle rêve d'être le grand pharaon, le big pharaon de cet empire immense qui finalement n'a jamais été réalisé par personne. Et c'est vrai que Jules César est évidemment ambitieux, mais qu'elle le pousse parce que quand il va la ramener à Rome, elle va vivre à Rome avec lui, Cléopâtre, et elle le pousse à devenir roi. Or, les sénateurs ne veulent absolument pas que César devienne roi. Ils ne veulent pas de lui, ils ont peur qu'il devienne un tyran. Et au lieu de le freiner, ce qui aurait été curieusement un certain sens politique quand même, là elle n'a pas fait preuve de sens politique, au lieu de le freiner, lui dire « Attends, tu mets les gens en colère », elle attise ça. « Mais si, tu dois devenir roi, cela te revient de droit. » Puisque elle, sa couronne lui revient de droit, elle n'a rien conquis, elle est née reine. Et effectivement, elle le pousse à sa perte puisque c'est pour ça qu'on va assassiner César.
Et puis après son assassinat, elle est retombée amoureuse. Une relation très torride avec Marc-Antoine. Si vous voulez la découvrir, il faut lire Les Salopes de l'Histoire, ces 2 éditions. Acropole, dans un instant, la reine Margot. Son sexe est un royaume, la jouissance, sa couronne. Les très beaux mots d'Agnès Grossman, notre invitée, à tous les curieux.
Vous écoutez RTL. RTL. Première radio de France.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les salopes de l'histoire, de Messaline à Matahari, c'est le titre du livre de notre invité Agnès Grossman. C'est publié aux éditions Acropole. On vient de découvrir rapidement, trop rapidement, mais il faut lire le livre pour avoir la suite, l'histoire de Cléopâtre. Allez, on va voyager dans le temps jusqu'au XVIe siècle.
C'est joli, ça, découvrir, ça a plusieurs sens en fait.
Mais exactement, c'est le bon mot pour la soirée. On est au XVIe siècle et on va raconter l'histoire de Marguerite de Valois. On l'a surnommée la reine Margot. C'est la fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. On a cité tout à l'heure la phrase que vous utilisez pour la décrire. Vous dites quoi ?
Le sexe est son royaume, la jouissance sa couronne.
Pourquoi vous dites ça ? Elle a eu beaucoup d'amants ?
Elle a eu beaucoup d'amants, elle en a eu autant qu'elle en voulait. Elle a eu surtout beaucoup de jouissance. C'est quelqu'un qui avait la sexualité facile, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Et puis surtout, c'était sa liberté, parce que ça a été une fille, une femme très contrainte. C'était une fille d'eux. Et c'était une sœur d'eux, surtout.
Ah oui, elle a...
Et tout le monde lui tombait plus ou moins dessus, à bras raccourcis.
Attendez, quand vous dites « tout le monde lui tombait dessus à bras raccourcis », c'est un euphémisme. Parce qu'en fait, ses frères, d'après ce que je comprends en vous lisant, ses frères qui étaient tous un peu tarés, un peu fous, profitaient de son corps, c'est ça, dans tous les coins du Louvre ?
Alors, ils étaient tarés, mais ils étaient brillants, les Valois. Ouais. Mais ils étaient physiquement déjà tarés. Ils étaient tous en mauvaise santé, à part la reine Margot, qui était éblouissante de santé, et qui, elle, est morte à 62 deux ans. Mais les enfants Valois, en fait, Catherine de Médicis et Henri II ont eu 10 enfants. Il n'y en a que deux qui ont passé les 30 ans, en l'occurrence, c'est Henri III et Marguerite de Valois.
Donc, ils couchaient avec leur sœur ?
Ils couchaient avec leur sœur. Ils étaient incestueux, les Valois, incestuels. Incestuels et incestueux. Ça veut dire que la mère était très proche de ses enfants. Enfin, elle n'a pas du tout couché avec. Mais c'est vrai qu'on soupçonne fortement Henri III d'avoir dépucelé sa sœur. Et elle était très belle et elle était très libre.
Elle en souffrait.
Et eux-mêmes avaient une sexualité un petit peu indistincte. Ils s'habillaient en femmes. Ils ont couché avec des hommes, avec des femmes. Vraiment, à la cour des Valois, on couchait beaucoup à l'époque.
Et si on revient sur l'histoire de Marguerite de Valois, ouais. Son premier amour, c'est Henri de Guise, amour impossible. Pourquoi ?
Parce que la famille de Guise était très rivale des Valois et ne demandait qu'une chose, à prendre le pouvoir. Donc, quand François de Guise est tombé dans les filets, si je puis dire, de la reine Margot, enfin de la princesse Marguerite de Valois, il s'aimait beaucoup, c'est un vrai amour, mais ça aurait été un accès direct au trône. Et ça, la famille Catherine de Médicis n'en voulait absolument pas.
Alors, ce qu'on découvre dans votre récit sur la reine Margot, Agnès Grossman, et c'est passionnant, c'est que ses frères l'ont empêché, ont essayé d'abîmer sa sexualité et son bonheur toute sa vie à la reine Margot, et notamment, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'un de ses amants absolument adorés ? Faut pas fier au nom, hein, il s'appelait Joseph Boniface de La Mole.
Il l'a un petit peu cherché. C'est-à-dire qu'il a fait partie d'un complot qui visait à faire échapper du Louvre Henri de Navarre et Marguerite de Navarre, ils étaient mariés depuis peu, et ils étaient emprisonnés par Catherine de Médicis, qui voulait les garder en otage parce qu'elle craignait, suite à la Saint-Barthélemy, une vengeance des protestants. Donc il voulait les aider à s'échapper, il s'est fait prendre, donc il a été torturé de toutes les façons possibles, imaginables, et à l'époque, Dieu sait si on avait de l'imagination, puis après on lui a coupé la tête et on l'a coupée en morceaux.
Donc vous le disiez, Agnès Grossman, la reine Margot était mariée, enfin Marguerite de Valois, avec Henri de Navarre. Et alors on peut dire qu'ils étaient très différents, ces deux-là, notamment en raison de la propreté. Ils n'avaient pas la même image et le même désir de propreté l'un et l'autre.
En fait, Henri de Navarre, le futur Henri IV, c'était un petit peu un péquenaud.
Et il ne s'est jamais lavé, en fait, Henri de Navarre.
Il ne se lavait pas, mais à l'époque, on ne se lavait pas. À l'époque, on ne se lavait pas parce qu'on était persuadé que les virus, enfin, on n'appelait pas ça des virus à l'époque, en tout cas que le mal entrait à travers la peau et que la saleté, une couche de saleté, protégeait la peau. Donc Henri de Navarre ne se lavait jamais.
Mais alors la reine Margot n'avait pas envie de faire l'amour avec lui, c'est ça ?
Si, bah, la reine Margot, pour qu'elle dise non.
Avec un pince-nez.
Non, mais non, c'est pas ce qu'elle préférait chez lui. Mais en fait, il avait une espèce d'odeur, vu qu'il ne se lavait jamais. Il appelait ça son fumet, d'ailleurs. Oui. Et lui, il trouvait ça très excitant, puisqu'il a même eu des maîtresses à qui il a demandé de ne pas se laver. Vous voyez ? Donc lui, c'était son truc. Mais à l'époque, personne ne se lavait. Diane de Poitiers prenait un bain tous les jours.
Diane de Poitiers, qui était la maîtresse de son père.
Était la maîtresse d'Henri II. Voilà. Et Marguerite, elle a appris à Marguerite à prendre un bain, elle en prenait une fois par semaine. Et tous les jours, elle faisait une toilette de chat. Mais c'était rarissime à l'époque.
Et ce que vous expliquez aussi, c'est que si la reine Margot s'en donne à cul-joie, ça c'est une expression que j'ai inventée, que j'aime énormément, c'est qu'en fait, sa mère, Catherine de Médicis, n'a jamais eu de plaisir et elle voulait être différente de sa mère.
Elle n'a pas eu de chance, Catherine de Médicis, parce qu'elle a épousé Henri II, qui n'était pas censé être roi au départ, hein, qui est devenu roi parce que son frère aîné est mort. Et donc, elle se retrouve sur le trône. Et en fait, quand elle arrive quand elle l'épouse, il y a déjà une femme qui est Diane de Poitiers, qui est la maîtresse attitrée de son mari. Et c'est avec Diane de Poitiers qu'il aime faire l'amour et prendre du plaisir.
Vous écoutez RTL.
RTL. 16 décembre 1809. Joséphine arrive à la Malmaison faute d'avoir pu donner un héritier à l'empereur. Elle a divorcé de Napoléon la veille.
La curiosité est un vilain défaut.
Ma belle Russie, je suis arrivée ici en 1744. L'Empire avait besoin d'une épouse pour le futur tsar de toutes les Russies. J'étais très honorée que ce soit moi qui fus choisie.
Jusqu'à 22h.
Le rapport d'instruction de Bouchardon est accablant. Il affirme que Matahari a livré des informations stratégiques aux Allemands. Il la décrit comme une espionne, une traîtresse née.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Traîtresse, putain, maîtresse, infidèle. On est curieux de découvrir le destin de celle que notre invité appelle les salopes de l'histoire dans son livre publié chez Acropole, Agnès Grossman. Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon, c'est l'une de ces salopes que vous décrivez. Elle était incorrigiblement infidèle. C'était une qualité réservée aux hommes au XVIIIe siècle aussi.
Les femmes étaient infidèles, les hommes étaient infidèles. Au XIXe siècle, là aussi, il y a eu une période de libertinage. Bon, en plus, il y a eu la Révolution française et après la Révolution, juste après, un grand désir de vivre et d'aimer et de s'amuser. Donc, tout le monde était plus ou moins infidèle. C'est-à-dire qu'on avait un couple, le couple n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Si vous voulez, on se mettait en couple, on mettait des maisons, on croisait des maisons, on croisait des héritages, on croisait des possessions. Et puis, des fois, on aimait en dehors de son couple, on appelait ça une douce douce habitude. On se mettait avec une femme ou un homme qu'on aimait, on appelait ça une douce habitude, mais il fallait toujours par contre préserver les convenances.
Joséphine de Beauharnais, Joséphine, c'est pas son vrai prénom. Pourquoi on l'a rebaptisée ?
Elle s'appelle Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie. Et c'est Napoléon qui l'a rebaptisée, puisqu'en fait, on l'appelait Rose communément, notamment sa grande amie Madame Tallien, une femme très importante à cette époque, l'appelait Rose. Et Napoléon, lui, comme elle a eu quand même beaucoup d'amants, Joséphine, lui a dit « Trop d'hommes ont prononcé le mot Rose, je veux que tu aies un prénom juste pour moi, ce sera Joséphine. »
Ce sera Joséphine Rose qui vient des Antilles, et elle arrive en métropole. Pourquoi ? Pour se marier ?
Elle arrive en métropole pour se marier. Ses parents ont une grosse plantation en Martinique. Et elle vient épouser le fils de l'ancien gouverneur, qui est un ami de ses parents en l'occurrence, et qui est Alexandre de Beauharnais.
Avec qui elle aura des enfants. Et
deux
c'est
enfants.
Une relation très orageuse.
Elle l'aime, lui l'aime bien. Et en fait, il est très infidèle. Et puis elle arrive peut-être mal dégrossie de sa Martinique. Et lui, il aime les femmes brillantes. D'ailleurs, il va la pousser à être brillante, à avoir de la conversation. Mais donc, elle va souffrir parce qu'effectivement, il va lui en faire voir de toutes les couleurs.
Et puis, il va mourir. C'est une figure de la Révolution française. Il est emprisonné. Joséphine aussi est emprisonnée. Comment elle passe le temps en prison ? Parce qu'elle s'ennuie.
Et elle aime, comme tous.
C'est-à-dire
ils sont
mais
tous,
comment on peut aimer en prison ?
Et ben parce qu'en fait, ils sont à la prison des Carmes, qui est une prison qui est une espèce de couvent. Donc, il y a des tas de cellules un petit peu. C'est ouvert, etc. Et il y a des gens très bien à la prison des Carmes, hein. C'est la haute société qui s'y trouve. Et c'est des gens, ils sont menacés de mort. Tous les jours, on fait l'appel pour savoir qui va partir à l'échafaud. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils profitent,
bien
et ils savent vivre, et ils seront d'ailleurs tous mourir.
Héros et Thanatos.
Héros et Thanatos.
Face à la mort.
Exactement, ils
n'ont
plus rien à perdre.
Et
elle va tomber très amoureuse.
Et par exemple, du général
Hoche.
Hoche, qu'est-ce qu'il a spécial, lui ?
Bon, il est beau, alors ouais. Je dirais que c'est pas spécial. Il s'est illustré sur les champs de bataille. Tout le monde le veut à la prison des Carmes, mais c'est Joséphine qui l'aura.
Alors tiens, justement, cette Joséphine de Beauharnais, qu'on surnomme la belle créole, est-ce que vous pouvez, Agnès Grossmann, nous la décrire, cette femme ?
Elle est pas très grande, elle est très mince. Elle a la peau plutôt brune. Elle a les dents gâtées, donc elle les cache tout le temps. Ou elle a une espèce de demi-sourire qui est un petit peu sa marque de fabrique. Elle a des grands yeux langoureux. Elle est très coquette, toujours très bien parée, très bien habillée, très douce. Quelqu'un dit tout est tendre chez Joséphine. Elle a une voix extrêmement ensorceleuse. Elle a un charme fou et elle donne l'impression d'être un petit oiseau qu'il faut protéger.
Et puis un jour,
elle rencontre Bonaparte. Ça se fait comment cette rencontre ?
Alors en fait, Bonaparte vient dans le salon de Paul Barras, qu'il a remarqué à Toulon, lors du siège de Toulon, qui est à l'époque le président du directoire, qui est l'homme fort du coin, qui est un ancien amant de Joséphine, dont il aimerait bien se débarrasser, parce que bon voilà, et lui il est aussi amant de Madame Tallien, parce qu'à cette époque-là, tout le monde couche avec tout le monde, et Bonaparte tombe d'abord amoureux de Madame Tallien, qui est une merveille, c'est une femme brillante, intelligente, qui tient une cour, qui tient un salon, elle est formidable, et Madame Tallien, à l'époque, il est un jeune freluquet de 26 ans, on l'appelle le chaboté parce qu'il est tout maigre avec des bottes qui montent jusqu'à mi-cuisse.
Donc elle n'y croit pas, Bonaparte.
Elle
ne fera pas carrière.
Elle lui dit je suis désolée, en gros, j'ai mieux à me mettre sous la dent. Et donc elle passe à côté alors qu'il l'aurait emmenée exactement là où elle voulait aller, parce qu'elle voulait aller au pouvoir suprême. Donc du coup.
Elle est passée à côté.
Elle est passée à côté de son destin.
D'une couronne d'impératrice, madame.
Et ouais, alors qu'elle aurait adoré ça. Ouais. Alors que Joséphine, pas plus que ça. Pas plus que ça.
C'est pas ambitieuse.
Elle aime son confort. Elle est d'un certain milieu. Elle veut pas déchoir, mais elle aime bien vivre. Elle aime aimer. Elle a besoin d'un homme qui la soutienne, etc. Et donc, Paul Barras jette un petit peu Napoléon dans les bras de Joséphine. Elle a 32 ans. Elle a déjà deux enfants. Elle n'est plus de première jeunesse pour l'époque. Elle en a vu et revu, et ça se sait.
Mais il tombe amoureux quand même.
Il va tomber fou amoureux de Joséphine, qui va le révéler sexuellement. Parce que Napoléon est plus doué sur un champ de bataille que dans un lit. Et Joséphine, c'est tout le contraire. Et Joséphine, elle va lui apprendre l'amour, qu'il faut prendre le temps pour faire l'amour, parce que lui, il connaissait les filles à soldats. Et à la fin, il lui dit « Mais comment connais-tu tout cela ?» Et elle lui dit finement « C'est toi qui m'inspires. »
Elle va lui apprendre l'amour et puis aussi un peu la tristesse, Joséphine de Beauharnais, à Napoléon. Il doit partir rapidement pour la campagne d'Italie. Et là, Joséphine reste à Paris et elle s'ennuie encore une fois. Alors elle s'occupe.
Elle s'ennuie jamais longtemps, Joséphine. Elle s'amuse et elle trouve un amant, Hippolyte Charles, qui est un gars qui arrive sans doute pas à la cheville de Napoléon, mais qui est là. Qu'elle mérite d'être là et qui est visiblement un bon amant, peut-être meilleur que Napoléon. Et elle tombe folle amoureuse de ce garçon.
Ça revient aux oreilles de Napoléon, évidemment, qui est en campagne et qui veut voir sa douce.
Ça va venir tard aux oreilles de Napoléon. Ça va venir très tard parce que Napoléon, il a plein de choses à faire. Il est en Italie, après il va en Égypte, après il ira en Russie bien plus tard. Mais on va lui ouvrir les yeux. mais
elle a pas envie d'aller le rejoindre. Joséphine, non, elle a pas envie d'aller voir Napoléon, lui remonter un petit peu le moral.
Elle fait croire qu'elle est enceinte et que c'est pour ça qu'elle peut pas le rejoindre. Et puis finalement elle accepte d'y aller, mais elle emmène son amant dans les bagages.
Oui, c'est la condition qu'elle pose, c'est ça.
Elle pose la condition à Paul Barras, qui, parce que Napoléon veut revenir et il est en train de faire des miracles sur les champs de bataille. Et Paul Barras dit non, le sort de la France en dépend. Tu y vas, tu prends ton amant dans tes bagages, tu t'arranges pour pas te faire prendre. Et t'y vas.
Et alors, quand tout ce petit monde rentre d'Italie, de cette campagne victorieuse de Bonaparte, il lui demande quand même de se tenir à carreau.
L'entourage tient à carreau.
Qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine de Beauharnais,
l'entourage tient à carreau. Et elle se tient un petit peu à carreau, mais pas plus que ça. Elle est persuadée de son emprise sur Napoléon, qui est réel d'ailleurs, mais qui ne durera pas, malheureusement.
Et d'ailleurs, oui. Il va la repousser. Pour quelle raison, tout d'un coup, Napoléon décide de repousser cette femme qui l'envoûte et qui le fait jouir?
Alors, d'abord, il l'aime énormément et elle va lui briser le cœur. Parce que Napoléon était un grand sentimental. Il y avait une pureté dans ses sentiments réels. Et en fait, elle lui brise le cœur. Donc, un cœur cassé, ça marche moins bien, hein, c'est sûr. Donc, il va revenir après. Ils vont s'installer ensemble, ils vont être heureux. Mais elle ne peut pas lui donner d'enfant parce qu'elle a menti sur son âge. En fait, elle a 6 ans de plus que lui. Et donc, elle est plus âgée, elle peut plus, parce qu'elle en a déjà eu 2. Donc, on pense que c'est ça. Et elle ne peut plus lui donner d'enfant, il va la répudier parce qu'elle ne peut pas lui donner d'héritier. Et ils en seront malheureux tous les deux.
Mais elle est quand même devenue impératrice, mais ça, elle s'en fiche un petit peu, Joséphine de Beauharnais.
C'était avant d'être répudiée.
Ouais.
Non, enfin, elle s'en fiche pas, c'est quand même agréable de devenir impératrice. Mais ce n'était pas son but dans la vie, c'est vrai.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Elles ont brisé les tabous, les préjugés, elles ont fait ce qu'elles voulaient pour elles et peut-être sans le savoir, pour beaucoup d'autres femmes, ce sont les salopes de l'histoire dont nous parle la journaliste Agnès Grossmann dans son livre publié aux éditions Acropole et ce soir sur RTL dans la curiosité. Agnès Grossmann, on va raconter maintenant l'histoire de Catherine II de Russie, juin 1762. Elle monte sur le trône après un coup d'état contre son mari, l'empereur Pierre le Troisième. Pourquoi il lui en veut ?
C'est pas tellement qu'elle lui en veut, c'est qu'il y a une guerre de pouvoir. Ça veut dire que déjà il se déteste et c'est un gars, il s'est mis tout le monde à dos parce que il aime l'Allemagne. Enfin bref, il déteste la Russie et en fait il a été catapulqué sur ce trône par sa tante Elisabeth Ier. Enfin bref. Et puis en fait il a déjà prévenu que si il montait sur le trône, s'il devenait empereur, il exilerait Catherine, voire il la tuerait. Donc elle décide de le prendre de court, elle fait un coup d'état, elle est soutenue par une partie du peuple russe et puis par les frères Orlov qui font partie de la garde impériale. Enfin, elle est soutenue par la garde impériale et c'est elle qui l'emporte, si je puis dire. Et donc, elle va faire le coup d'État, elle va l'emporter et quelques semaines plus tard, Pierre III mourra de façon accidentelle.
Alors là, vous avez raconté toute l'histoire. Il faut revenir aux raisons pour lesquelles elle est choisie. On l'a choisie, et c'est une erreur, en pensant qu'elle est quoi ? Insignifiante, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est une Allemande. Catherine II, elle n'est pas du tout russe. Hein. D'ailleurs, elle s'appelle Sophie au départ. Elle s'appelle Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst. Et en fait, elle est choisie, effectivement, parce que c'est une petite noble, assez loin de la cour. Elle est jolie, mais on la veut insignifiante. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, ceux qui vont la choisir, Elisabeth Ier, c'est que c'est une gamine toute jeune qui a un terrible appétit de gloire. Et quand on lui dit à 14 ans qu'elle va épouser le futur empereur, elle est absolument ravie. Elle considère que sa chance lui sourit.
L'ambition, c'est son moteur.
Ouais, elle est très ambitieuse. Elle est comme ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le destin qui va venir la chercher dans sa petite province. Mais le destin tombe sur une fille qui est avide de gloire.
Si on pousse la porte de la chambre à coucher, c'est ça qui nous intéresse aussi, Agnès Grossmann, ce soir dans la curiosité. Entre Catherine II et Pierre III, ça se passe comment ? C'est plutôt un type.
Ça se passe pas en fait,
sauvage.
Il est un peu débile. Il faut dire qu'il a une enfance très malheureuse. Il s'est mal développé à tout niveau. Et le pauvre, il a un défaut qu'avaient pas mal de gens à l'époque, parce qu'aujourd'hui on donne un petit coup de bistouri. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, l'homme ne peut pas vraiment, enfin son sexe ne peut pas vraiment se déployer. Donc il peut pas la satisfaire. Et en plus, il s'en fiche. C'est un enfant. Il fait venir ses chiens dans le lit. Il joue aux petits soldats. Il attrape des souris et fait des combats. Enfin bref.
Et donc la mère de Catherine II lui conseille de prendre un amant.
Alors c'est pas
c'est la mère de Pierre III.
Sa tante.
Sa tante. Il y a beaucoup de femmes autour de.
Et oui, il y a beaucoup de femmes
à la cour.
Il y a eu beaucoup de femmes impératrices, plusieurs femmes impératrices de Russie.
Et alors,
elle lui dit, au bout de 8 ans, il se passe rien. Elle lui dit, ça serait bien que tu aies un héritier. Pour avoir un héritier, il suffit de coucher avec un homme. Et elle va lui choisir plus ou moins un homme qui est Saltykov, qui est réputé pour être un bon amant.
C'est le beau Serge, c'est ça ?
C'est le beau Serge, Saltykov. Il a, elle a 23 ans, elle, hein, elle est vierge, elle a 23 ans. Lui, il en a 36, donc il a 13 ans de plus. C'est un libertin qui va tout lui apprendre et qui va aussi beaucoup la faire souffrir parce qu'il va la laisser plus ou moins tomber. Donc il va tout lui apprendre de l'amour.
Et elle aura un enfant avec lui ?
Ça... Elle aura sans doute.
Ça alors, marche, on sait le pas. Conseil a été bien suivi.
Alors, elle aura un enfant qui va être le petit Paul, mais on a toujours un doute parce qu'entre-temps, on avait opéré Pierre III. À ces époques-là, bon, le sens politique l'emportait des fois sur l'amour, le sens amoureux. Donc peut-être qu'ils ont un petit peu fricoté quand même ensemble pour essayer d'avoir un héritier. Il y aura toujours un doute sur
Et puis lors d'un bal en 1755, il y a un nouvel ambassadeur d'Angleterre qui débarque comme ça avec son secrétaire à la cour de Russie, c'est Stanislas Poniatowski. Et là, c'est encore le coup de foudre pour Catherine II.
Alors coup de foudre, c'est un grand romantique, ils ont beaucoup d'affinités intellectuelles. Catherine II était une grande intellectuelle. D'ailleurs, on disait, si elle avait été un homme, on aurait dit que c'était un intellectuel. Là, on ne le disait pas, on disait éventuellement qu'elle était intelligente, mais ce n'est pas quelque chose qui se disait alors qu'elle était très, très intello. Et en plus, là, c'est elle qui va un petit peu le déniaiser, lui apprendre l'amour, ce qu'elle aimera toujours faire parce que elle aura souvent des amants plus jeunes qu'elle.
Ils vont avoir un enfant et alors je découvre dans votre livre que ces enfants sont confisqués à la
Elisabeth
à Catherine II.
Ses enfants. Ouais.
Ça veut dire quoi confisquer ses enfants ?
C'est-à-dire que dès qu'elle a accouché, Elisabeth Ière vient chercher le petit Paul puisque elle le prend et sa mère le reverra des semaines après. Et d'ailleurs, elle le reverra des semaines après pour pas longtemps. Et en fait, elle ne l'élèvera pas. C'est Elisabeth Ière qui va l'éduquer. C'est horrible. Elle en souffre sur le moment énormément. Après, elle s'y fait. Et elle fera la même chose à son fils. Parce que Paul va grandir. Parce qu'en fait, quand elle arrivera au pouvoir, il n'aura que 8 ans. Donc, elle pourrait le récupérer et s'en occuper. Mais elle ne s'en occupera jamais vraiment. D'autant qu'il est en rivalité avec elle, puisque lui est légitime sur le trône de Russie, alors qu'elle est un peu une usurpatrice. Donc, elle va toujours le maintenir à distance. Elle ne sera pas sympa avec son fils. Mais il aura des enfants. Et notamment Alexandre, enfin, et elle sera une grand-mère extraordinaire et elle fera à son fils exactement la même chose qu'on lui a faite. Ça veut dire qu'elle va confisquer le petit Alexandre et c'est elle qui l'élèvera.
Merci beaucoup, merci Agnès Grossmann de nous avoir fait partager ces destins de femmes, les salopes de l'histoire de Messaline à Matahari. Votre livre est publié aux éditions Acropole. Merci.
Merci beaucoup.
À suivre dans la curiosité sur RTL, les secrets des sourciers.
Vous écoutez RTL.